Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Cogit Pop, ce petit labo d'éducation populaire en train de se faire. Quatrième émission d'une série qui propose comme outil politique pour muscler notre autodéfense intellectuelle, l'arpentage. Alors on a 26 minutes, c'est-à-dire très 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 peu de temps pour s'emparer d'une citation et voir ce qu'elle nous fait à plusieurs. Et aujourd'hui, bah super, on est quatre autour de cette table. Il y a Quentin qui nous a rejoint. Salut Quentin.
Salut Sophie, je suis ravi de repartager ce studio avec toi.
Et oui, ça fait longtemps pour les fidèles auditeurs, l'année dernière ou même il y a un peu plus, on était ensemble, binôme. Jean-Philippe Smadja, bonjour Jean-Philippe.
Eh ben bonjour.
Et ravi que tu sois parmi nous. Et Seb, salut Seb, à nouveau.
Salut.
Toujours. Donc vous êtes là tous les quatre. Seb, est-ce que tu peux nous rappeler pour nous toutes et tous ce qu'est de l'arpentage?
Oui, donc ici on fait une version miniature de l'arpentage puisque c'est une pratique d'éducation populaire qui consiste à lire un livre normalement à plusieurs parce que plus on est nombreux, plus on est fort pour affronter tout ce que le savoir peut nous apporter. Normalement, donc on prend le livre, des fois on le déchire même, et chacun lit 10-15 pages et on partage notre lecture selon une trame, et c'est cette trame qu'on va suivre, mais nous on va le faire avec une citation, une simple citation, et on va rebondir en trois temps, donc qui est la trame habituelle de l'arpentage. Quand on entend cette citation, d'abord quelles émotions ça nous procure, prendre le temps d'être attentif à ce qu'on ressent. Dans un deuxième temps, ce sera de partager entre nous une idée forte que cette citation nous a donné à penser. Donc, on n'est pas à l'école, il ne s'agit pas d'avoir la bonne interprétation de la citation, d'avoir bien compris ce que l'auteur ou l'autrice a voulu dire, mais juste qu'est-ce que ça nous a donné, nous, à penser. Et dans un troisième temps, parce qu'on a bien choisi nos citations, on est dans l'éducation populaire politique, c'est susceptible de nous outiller, de nous armer dans des combats ou dans la vie de manière générale. Donc, troisième temps, qu'est-ce que ça peut changer dans notre pratique ou dans notre existence? Et là, la réponse, ça peut être tout, n'importe quoi et même rien. Parce que des fois, on entend des idées, on se dit « bah oui, c'est vrai, mais je vois pas ce que ça va faire avancer dans ma vie ». Donc, tout est possible.
Tout est possible. Eh ben, c'est parti, on va entendre ta citation. Puisque c'est encore toi qui es venu avec une citation aujourd'hui.
Oui, et ben là j'ai pris un grand classique de l'éducation populaire. Et je sais qu'elle m'avait fait beaucoup d'effet la première fois que je l'avais entendue. Donc si vous ne la connaissez pas, on verra si elle vous remue les méninges. Donc c'est une citation tirée d'un livre qui s'appelle « La pédagogie des opprimés » de Paulo Freire, qui est presque une bible en éducation populaire. Et c'est une définition de l'éducation. Donc voilà ce que dit Paulo Freire. Personne n'éduque autrui. Personne ne s'éduque seul. Les humains s'éduquent ensemble par la médiation du monde. Je la relis une deuxième fois. Souvent on fait ça, c'est mieux. Personne n'éduque autrui. Personne ne s'éduque seul. Les humains s'éduquent ensemble par la médiation du monde.
Merci. Et c'est là où c'est difficile, je vois trop loin. Waouh.
Ben, on va pouvoir écouter justement nos émotions avant de réfléchir ou de voir l'idée à laquelle ça nous fait penser, puisque ça, ce sera seulement le deuxième temps. Donc voilà, dans un premier temps, juste on entend ça et dans quel état émotionnel on est.
Jean-Philippe, t'as droit de dire, parce que moi je vois que tu ouvres grand les yeux et que tu fais... Tu peux dire ça.
Ok, ça me plonge dans un abîme en fait. Ouais. Voilà, pour commencer.
Ouais.
Il y a l'histoire de médiation du monde qu'il m'a fallu entendre deux fois pour pouvoir me l'approprier en fait.
Et le visualiser peut-être.
Et le visualiser, ouais. Et pour l'instant, ça me fait ça, voilà, je crois. Que...
Et toi, Quentin?
Bah, c'est pareil, moi, ça a déclenché justement ce processus de me sentir traversé par tout ce que j'apprends au quotidien de tout et tous. Et pour l'instant, je traverse ça.
Moi, d'abord, une forme de presque de sidération, de pas seul, et puis quelque chose de très très réconfortant, parce que j'entends la médiation du monde. Moi, ça réchauffe de l'intérieur. Et toi?
Alors moi, je vais essayer de parler de mes souvenirs. Parce que là, aujourd'hui, ça ne me fait plus la même chose. Mais il me semble que j'ai des souvenirs très nets comme toi de la sidération ou de l'abîme. C'est-à-dire, je me suis dit, ouais, attends, qu'est-ce qu'il veut dire là? Il y a des choses qui sont tellement contre-intuitives ou pas habituelles qu'il y a besoin de les digérer. Donc, ouais, d'abord un choc et du vertige. Ouais.
Et ensuite, alors, on va la redire une fois. Et après, si tu veux bien... Enfin, je te donne la parole.
Bon, très bien.
Mais, ok, ça marche.
Et je vais vous la redire deux fois, de nouveau, et je vais utiliser une autre traduction. Non, je vais la relire de la même manière, et il y a un mot qui change qui peut aussi aider. Donc, personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les humains s'éduquent ensemble par la médiation du monde. Et une autre traduction pour le mot médiation, qui est peut-être plus accessible, personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les humains s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. C'est les deux traductions qui circulent en français. Parce que Paulo Freire écrit en espagnol.
Jean-Philippe.
Bah pour moi, le mot médiation, c'est ce qui rapproche, en fait. Donc, effectivement, par l'intermédiaire du monde, c'est comment ce qui peut entourer les humains qui s'éduquent. Que c'est, on reste dans la citation, peuvent contribuer à une éducation ensemble, quoi. Ensuite, puisqu'on parle d'éducation, effectivement, ben on peut, évidemment, on pense à éducation, moi je pense à éducation nationale. Je suis, en tant qu'intervenant pédagogique, j'ai affaire à de nombreux élèves. Et dans les ateliers que je mène, effectivement, il n'y a pas un savoir descendant, mais une confrontation de points de vue avec... évidemment, des savoirs tout de même, mais qui vont croiser effectivement aussi des émotions et des points de vue. Et c'est en ça qu'on va se... peut-être pas s'éduquer l'un l'autre, mais en tout cas qu'on va construire ensemble quelque chose, quoi. Voilà, sur un sujet donné. Là, en l'occurrence, des interventions en histoire, voilà.
Ouais. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose, effectivement, comme disait Sophie, de rassurant, il y a quelque chose de joyeux dans cette idée de mutualisation des savoirs et des pratiques. Et j'adore l'expression la médiation du monde, je la trouve plus jolie que la seconde, parce que dans la médiation du monde, il y a aussi le non-humain, il y a l'expérience historique qu'on traverse tous comme êtres vivants sur la planète, et en fait moi ça me console. Parce que la première partie de la citation, c'est effectivement la verticalité de l'enseignement type éducation nationale. Personne ne s'éduque seul, parce que le mythe du self-made et de l'auto-apprentissage repose sur du vent, sur un ego. Et alors qu'à partir du moment où on considère qu'on apprend ensemble grâce à tout, ça veut dire qu'on est à l'abri d'aucune connaissance.
Ouais, et j'aime bien ce que tu dis, Quentin, parce que tu as employé plusieurs fois le mot traverser. Et pour moi, il y a quelque chose dans cette citation qui me fait penser à quelque chose de très sensible, qu'il faut être très poreux. En fait, la médiation du monde, ça veut dire pour moi qu'il faut être très poreuse au monde. Et le monde, ça veut dire effectivement les humains, les non-humains. Et ça a du coup inscrit la sensibilité pour moi vraiment au cœur des apprentissages. La sensibilité, l'ouverture, la fluidité, ne pas se fermer pour être encore à nouveau, poreuse au monde et à ce qu'il a à nous dire. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde, tous les humains, tous les êtres sensibles eux-mêmes ont à nous dire. Donc il y a quelque chose... oui, de très réconfortant, tu l'as dit, parce que ça veut dire pour moi que l'ouverture est vraiment source de richesse et que il y a quelque chose de fermé, de stérile dans apprendre seul, apprendre par soi-même. D'abord, c'est une illusion, en effet, pour moi. Et puis, il y a quelque chose de très stérile. De fermer, de... ça y est, c'est mort. Et toi?
J'avoue que comme je suis un peu sidéré par la citation, les premières choses qui me font penser, c'est déjà le début. Parce qu'effectivement, le début est plutôt négatif, mais rien que ça, ça me donne beaucoup à penser. Personne n'éduque autrui. Moi, je comprends que ce soit devenu un étendard d'éducation populaire, parce que finalement, c'est une citation qui est extrêmement radicale, qui défend un point de vue sur l'éducation en disant, mais quand tu es en train de faire quelque chose sur autrui, c'est pas l'éducation, c'est autre chose. Voilà, cette verticalité ou ce savoir qui descend. Et donc, c'est comme si l'éducation populaire, d'une certaine manière, populaire, ça venait pas qualifier un certain type d'éducation, mais ça venait définir ce qu'est vraiment l'éducation. Et il faut qu'elle soit populaire, sinon ça n'est pas de l'éducation. Ça peut être de l'endoctrinement, de la propagande, du dressage, de la mise en conformité, etc. Et quand on est habitué à être dans des dispositifs d'apprentissage ou d'éducation, le personne n'éduque autrui, ça calme, ça fait le ménage, quoi. On se dit, mais finalement, quand je fais ça, est-ce que c'est vraiment l'éducation ? Et le mouvement de balancier aussi, voilà. Une fois que, et ça déjà, ça prend du temps, à mon avis, de digérer cette première partie. Comme l'a dit Quentin, personne ne s'éduque seul. Là, ça vient faire le ménage dans une autre
mythologie.
Une autre mythologie qui serait celle de l'individualisme, d'être capable de s'en sortir tout seul, à coup de volontarisme, de mérite, tout ce vocabulaire qui vient beaucoup culpabiliser les gens et les angoisser, je pense. Et après, cette ouverture, c'est vrai que la construction triangulaire de la citation est vraiment chouette, parce qu'après, voilà, la médiation du monde, c'est comme si on mettait la relation en premier. Je pense que après avoir un peu nettoyé l'idéologie des deux pôles, ça vient de l'autre, qui serait ton maître, ou tu vas t'en sortir tout seul. Et dans la médiation du monde, j'entends aussi, entre guillemets, peut-être parce que le début de la citation est d'abord négatif, la part de négativité dans cette troisième partie, à mon avis, c'est méfie-toi du langage. C'est-à-dire que la médiation du monde, c'est aussi en revenir au concret, etc., et jouer aussi un coup de semonce contre le langage, les mots, les discours. Voilà. Et il faut que ça passe par la médiation du monde, ça veut dire que ça ne va pas juste passer par du discours ou du langage ou des mots.
D'accord, ce serait une médiation immédiate.
En tout cas, c'est vraiment, pour moi, ça met au cœur la question de l'expérience. Est-ce qu'on a une expérience commune ? Est-ce qu'on parle de choses concrètes ? Est-ce qu'on est capable de partir d'un terreau commun ?
Tu voulais réagir ? Non ?
Quand oui, moi ça continue à fluctuer de partout. Moi, ça, cette idée aussi de s'éduquer ensemble par la médiation du monde, ça m'évoque du coup quelque chose de, comme tu disais, de traversant. Il y a une histoire de flux. Il y a des flux de connaissances et de savoirs qui sont pas figés. C'est opposé à une certaine rigidité qui est plutôt le propre de la propagande et de asséner une connaissance. On voit avec nos expériences de vie et celles dont on hérite que en fait la connaissance et les savoirs sont des choses qui évoluent dans le temps et qu'on a rarement une compréhension absolue et figée du réel. Cela étant, comme on s'éduque ensemble, on essaye de faire commun, quoi. Donc c'est peut-être un truc qu'on a d'urgent aujourd'hui aussi, de réussir à recréer un élan et un mythe commun à nous pour raconter notre expérience sur Terre.
Jean-Philippe.
Ouais, alors je sais pas si ça a grand chose à voir, mais en fait le mot qui me venait à l'esprit là, c'est altérité, en fait. C'est-à-dire, en fait, s'éduquer ensemble, c'est pouvoir être à plusieurs personnes avec des points de vue qui sont différents, parfois même contradictoires, opposés. Et comment tu vas mettre en place, comment ensemble on va pouvoir mettre en place des outils ou une forme de pensée qui va permettre d'exprimer à la fois son point de vue que je distingue de opinion. Je sais pas si ça peut parler.
Pour toi.
Pour moi, ouais.
Tu fais le point de vue. Tu peux nous préciser.
L'opinion, elle est figée, elle est dirigée. Pour moi, elle est pas. Elle ne s'ancre pas dans une. Ah zut, j'arrive pas à trouver les mots, en fait. mais elle ne va pas chercher racine dans, alors, soit un savoir, soit ça peut être juste de l'expérience, en fait, pourquoi pas, mais en fait c'est, non, pour moi l'opinion c'est vraiment quelque chose qui est voilà, je pense ça parce que je pense ça, ou bien
hors sol.
J'en sais rien, hors sol peut-être, ouais, ouais. C'est ça. Le point de vue, il est souvent plus carré, plus ciblé, plus justement
argumenté,
ouais, sans doute, voilà. Oui, c'est pas mal ça. Et donc cette confrontation de points de vue peut amener non pas une espèce de machin mou, un consensus mou, voilà, mais au contraire à augmenter la taille de justement de la pensée, quoi. Et voilà, voilà ce que ça me fait, moi.
Alors, tu as commencé à mordre un petit peu sur la troisième partie, c'est-à-dire, tu as commencé à dire, à mordre sur l'expérience, ce que ça va t'amener à, voilà, à faire ou à changer éventuellement dans ta pratique. Je ne sais pas si toi, tu veux d'abord ajouter quelque chose sur les idées et après passer à justement.
Non, je pense que c'est bien de passer dans le troisième moment, parce qu'en plus c'est une citation qui vient vraiment, je pense, nous interpeller dans nos existences, dans nos pratiques, donc ça m'étonne pas de dire que on est un peu glissé de la deuxième à la troisième. C'est pas la première fois que ça nous arrive d'ailleurs, c'est plutôt bon signe.
Transition involontaire.
C'est parti. Et donc, qu'est-ce que cette citation qu'on va redire une dernière fois ?
Oui, tiens, on va changer de voix.
Ah, mais je ne l'ai pas sous les yeux, moi, donc
j'ai cru que tu l'avais noté. Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul. Les humains s'éduquent ensemble par la médiation du monde.
Alors, Jean-Philippe, comment, toi, cette citation pourrait t'inviter à transformer ta pratique ou ton expérience?
Alors moi, dans ma pratique professionnelle, j'ai affaire à des enfants et des ados, en fait. Des élèves, avec des élèves. Ben, je suis intervenant pédagogique en histoire, voilà. Et effectivement, modestement, je prétends faire de l'éducation populaire dans ce cadre-là, parce que justement, les ateliers ne sont absolument pas descendants. C'est-à-dire qu'on s'empare d'un sujet et on va fournir des outils, une méthode, mais en fait derrière, on va confronter des points de vue et ensemble on va réfléchir à un sujet qui va aboutir à une restitution, à une argumentation, mais une argumentation donc, et qui va finalement, encore une fois, augmenter le champ de la pensée, en fait, de chacune et chacun des personnes présentes. Donc qu'est-ce que ça me fait, moi, d'entendre ça? Ça me conforte dans ma pratique, donc c'est plutôt agréable de ce côté-là, et ça me donne envie d'aller encore plus loin là-dedans, en fait. Effectivement, si j'avais envie de me l'approprier, ce qui peut être le cas, effectivement, d'avoir ça en tête, voilà, pas comme un mantra, jamais comme un mantra, mais en tout cas, de l'avoir en tête pour pousser encore le bouchon un peu plus loin dans comment est-ce que on peut enseigner un savoir tout en étant super à l'écoute de ceux qui sont en demande de savoir, mais en fait qui savent des choses aussi. Mmh. Voilà.
Mais qui, mais qui savent aussi.
Mais qui savent aussi.
Ça, c'est, j'imagine, ça donne le vertige, je pense, c'est abyssal d'imaginer ça. Et je me tourne aussi un peu vers Seb, parce que toi, c'est aussi, t'as une pratique, on va dire, qui s'apparente aussi au sein de l'éducation nationale. Et je pense que c'est des questions qui te touchent.
Ah oui. C'est une perspective qui est extrêmement stimulante pour imaginer des dispositifs pédagogiques d'apprentissage qui est confrontante. Parce qu'on tombe vite, souvent dans l'élan, même en éducation populaire, c'est d'amener les formules, tu vois, on amène des outils, etc. Donc on peut vite se retrouver à amener quelque chose, donc à commencer à ressembler au début de la citation, à vouloir éduquer autrui. Et effectivement, peut-être pas un mantra, mais en tout cas une forme de vigilance pour se dire dans quelle mesure on est vraiment entre égaux, dans quelle mesure on reconnaît que les autres ont des savoirs, des compétences et qu'on va pouvoir s'éduquer ensemble les uns les autres. C'est-à-dire vraiment une vigilance sur le caractère réciproque d'une situation d'apprentissage mutuel.
Mmh. Voilà. Et concrètement, un exemple de comment ça se passe, par exemple
pour moi, il faut qu'on ait une expérience commune. Si on ne parle pas de... Voilà, si c'est moi qui amène quelque chose, une connaissance, etc., et que je les mets face à quelque chose qui ne correspond pas à une expérience vécue, on n'a pas d'expérience commune. Donc comment est-ce que déjà on fait pour s'assurer qu'on parle de la même chose, d'un même vécu, d'un même concret, d'une même réalité ? Et donc se poser la question de qu'est-ce qui est concret pour tout le monde dans ce dont on est en train de discuter ensemble, c'est vraiment le plus important. Et ça, des fois, ça recule beaucoup les apprentissages théoriques et apprendre à se dire, c'est pas grave, parce que si déjà on sait de quoi on parle et qu'on parle de quelque chose de concret pour tout le monde, c'est extrêmement précieux.
Ça revient au socle commun et au dont tu parlais, Quentin.
Bah oui, là, moi, dans mon expérience immédiate, je sors d'une journée d'atelier avec des ados, des collégiens, des collégiennes, où j'apporte l'outil du studio de radio. Et en fait, ils ont un mandat qui est de réfléchir à la question du handicap au collège. Et en fait, on est arrivé sans être dans la posture de sachant. En fait, c'est cette espèce de rigidité du sachant qui vient transmettre un savoir tel quel qu'on a pris le parti de mettre de côté. Et en fait, on s'est réunis, comme on est là, autour des micros. Il y avait 6 jeunes, 2 personnes qui travaillent dans le milieu du handicap, qui ont donc une certaine connaissance du handicap, sans être nécessairement handicapées elles-mêmes. Et moi, j'arrive au milieu en me disant, comment on organise ça ? Et en fait, ça s'est fait de façon très organique par la conversation et le partage des vécus. Et tout le monde est sorti grandi des récits des autres. Et les 2 dames qui arrivaient de la MDPH, donc la Maison Départementale des Personnes Handicapées, sont sorties à la fois émues, secouées intellectuellement par la sagacité, la vivacité des points de vue des ados. Et moi, pareil, j'ai observé ça et j'ai essayé d'accompagner le mouvement en me disant... parce qu'en fait, je suis arrivé avec énormément de questions aussi de mon côté sur qu'est-ce que c'est une situation de handicap par rapport à ce qu'on disait avant, juste d'une personne handicapée. Voilà, j'avais plein de questions et pas tant de réponses. Et au final, tous ensemble, on a réussi à faire émerger des axes de réflexion. Donc ça, c'est très professionnellement et très dans l'immédiat ce que ça m'a évoqué. Ouais.
Oui.
Je voudrais juste préciser un mot de vocabulaire parce qu'il vient de Paolo Frère et que tu as employé, qui est peut-être paru bizarre pour les auditeurs et les auditrices, c'est sachant. Mmh. C'est lui qui invente ce concept-là, justement pour désigner de manière péjorative des personnes qui ont un rapport au savoir de type prétention à détenir la vérité et apportant verticalement des connaissances imposées. Donc c'est intéressant comme mot pour ne pas utiliser savant. Que Frère garde avec une connotation positive pour désigner la posture scientifique. Donc le mot oui. Sachant, il est intéressant justement pour désigner un certain rapport au savoir particulier.
Il nous reste très peu de temps. Enfin, tu voulais redire quelque chose ?
Pourquoi pas ? Moi, je pense que ça nous amène tous à... Je souhaite que ce genre de citation et l'ouvrage qui l'entoure nous aide à avancer dans ça, dans une accumulation et une évolution de nos connaissances qui tiennent compte de l'expérience de tous. Quoi.
Et peut-être aussi se poser la question... Enfin, moi, je me dis ça... concrètement dans ma pratique, autour de dans un studio, autour de micro, se dire est-ce que en sortant de ce moment-là, j'ai appris plus de choses des gens que je n'ai été confortée par ce que je voulais apporter. Enfin, si jamais je voulais apporter quelque chose, est-ce que je suis plus en question que confortée dans certaines des réponses que j'avais? Peut-être ça peut être aussi un petit outil pour jauger si effectivement j'ai pu être, comme je le disais, poreuse à ce que les autres me laissaient. Voilà, traversée par les questionnements, les savoirs, l'enrichissement des autres. Et il est l'heure. Merci d'avoir été là autour de ce micro, donc pour parler encore une fois de Paulo Freire, de cette citation. On la redit juste pour terminer une fois.
Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul. Les humains s'éduquent ensemble par la médiation du monde.
Merci beaucoup. C'était Cogit Pop et vous pouvez nous retrouver les 2e et 4e dimanches de chaque mois à 11h ou sur le site fréquence7.net. On se retrouve donc tout bientôt. Merci à vous. Ciao. Merci.